Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut tout le monde, Monsieur McKenna, bonjour.
Monsieur Charrette, message.
Alors, autre émission de Ça tient la route. Je reviens, ma foi, presque, soit hier, je reviens du Texas cette semaine. On est allé essayer, en fait, pas des nouveaux produits Toyota. On est allé essayer des produits Toyota qui sont sur la route. Et je me suis glissé dans un essai qui était réservé aux Américains pour le Sequoia. Parce que moi, je pensais bien qu'on allait l'essayer. On était avec des Américains.
Ah oui.
On était quelques Canadiens. Ben, quelques quand même, une dizaine. Là. Mais l'essai de... C'est parce qu'on a un livre, nous, à écrire.
Oui.
Et le Sequoia arrive après la date de tombée du livre. J'ai dit, ben non, mais là, faut que j'essaye ça. Là. Alors, heureusement, je connaissais le PR américain. Je suis allé le jaser un petit brin, puis il m'en a laissé un pendant 2 heures.
Ah, voilà. Sequoia qui est le Tundra avec une boîte fermée.
C'est ça. Voilà. En fait, on a renouvelé le Tundra, et par le fait même, après 57 ans, on renouvelait le Sequoia. Je pense que je mets un an de trop. Je pense que c'est à 56, mais en tout cas, il était dû. Mais je peux pas en parler. Il y a un embargo qu'au 6 juin, donc...
On va
parler d'autres choses, mais on va en revenir là-dessus la semaine prochaine. Sinon, on va avoir comme invité cette semaine notre ami Daniel Breton.
Un
habitué de l'émission. Hier, le gouvernement du Québec a modifié sa réglementation dans le but d'augmenter les ventes de véhicules électriques au Québec. On va atteindre un objectif de 1,6 million. Donc, il va y avoir des rehaussements dans les cibles de vente de véhicules entre 2025 et 2029. Daniel Breton a tout décortiqué ça pour nous autres. Il va nous rendre ça simple. Comme
une nouvelle qui réjouit Daniel, ce qui est quand même assez rare quand ça vient du gouvernement.
Oui. Alors, on vise à avoir des lois aussi sévères que la Californie. Il y a des nuances, puis c'est ça que Daniel va nous expliquer.
Oui.
En essai routier, j'ai sur la route cette semaine quelque chose qui coûte très cher, mais qui va absolument bien. Audi e-tron GT RS, bobite à 194 200 $. Puis il n'y a pas de taxe, puis il manque une couple d'options. Mais bon.
Il n'y a pas d'aide à l'achat
là-dessus. Il y a zéro. Écoute, quand t'as un moyen de payer 200 000 $ pour un char, les aides à l'achat, ça devient un petit peu redondant.
Je peux comprendre.
Puis toi aussi, t'es dans l'électrique à l'instant.
J'ai un peu à l'autre bout du spectre. En fait, j'ai l'édition de base, la Polestar 2, édition à un seul moteur qui a été créé, je vais dire, un peu catastrophe à Polestar pour se conformer aux exigences gouvernementales, entre autres. Là.
Oui.
J'ai essayé ça la semaine dernière. Écoute, voiture que personne connaît, mais que tout le monde remarque. Donc, c'est quand même intéressant.
Ben absolument. Alors, on va commencer avec les nouvelles, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin?
Ben écoute, je suis en mode électrique. On va parler de Buick, qui a annoncé plus tôt cette semaine que tout son catalogue sera électrifié au plus tard en 2030.
Ouais.
La division de General Motors, qu'on ne sait pas trop si c'est une marque de luxe ou simplement une marque populaire en Chine, je n'arrive pas à figurer encore.
C'est surtout une marque populaire en Chine.
Je pense que oui, exactement. En tout cas, elle veut se repositionner en Amérique du Nord et donc elle prévoit, sa direction annoncée, là, qu'elle prévoyait électrifier sa gamme de produits à partir de 2024 en vue de ne proposer que des modèles moteurs électriques avant la fin de la décennie. Ça, c'est 2030. Pour souligner le virage en question, General Motors a présenté une nouvelle version du logo de Buick qui reprend à la sauce moderne les trois fameux boucliers là, qui composent le logo depuis à peu près toujours. Un nouveau logo, coloré, hein, à trois couleurs, rouge, vert, bleu, va apparaître sur les capots des véhicules Buick dès l'an prochain. C'est un logo un peu plus carré là, que ce qu'on a vu dans le dernier.
On a stylisé le logo qu'on connaît. Là.
Et je vais dire ceci, et c'est un peu cocasse, mais quand on le regarde de très près, on peut imaginer facilement que chacun des petits boucliers ont la forme d'une borne de recharge au design un petit peu futuriste. Je ne sais pas si c'est voulu, mais moi j'ai vu ça. En tout cas,
t'étais pas sous l'effet de quelque chose.
Ah non, absolument pas. Non, j'étais très sobre et tout à fait sain d'esprit, mais c'était quand même. Tu sais, des fois on cherche des liens.
Ouais, absolument.
On peut chercher un peu trop. Mais en tout cas, bon, peu importe. Côté produit, ça débute donc en 2024 avec le premier nouveau modèle à incarner ce changement, et ce sera un modèle appelé Electra. Va falloir voir, parce qu'il va y avoir des chiffres après ce truc-là. Parce que tous les futurs produits électrifiés de Buick vont porter le nom Electra. C'est ce qu'on a déclaré. Un peu comme Hyundai le fait avec Ioniq, en fin de compte. Il y a Ioniq 5 qui va avoir 6, 7, 8, ainsi de suite.
9.
Pourquoi pas. Et évidemment, parce que Buick a décidé de faire un peu plus compliqué, alors qu'on aurait pu faire vraiment simple. On a aussi présenté un concept de couper deux portes électriques qui donne une idée de la philosophie de design que GM va adopter.
Qui est très beau, par exemple, le Wildcat.
Ouais, ben on aurait pu l'appeler, tu sais, Electra 1, tant qu'à faire, mais on l'a appelé Wildcat EV, donc EV pour Electric Vehicle. C'est un coupé deux portes de type 2 plus 2 qui a droit à un habitacle très reculé et donc un très long capot sous lequel on aurait normalement, dans un autre univers, déposé un V8, j'imagine. Mais là, comme il n'y a pas de moteur à essence, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre là.
T'as-tu ça, un moteur électrique en ligne? Ça se fait dessus?
T'as-tu ça, ce moteur en ligne? Oh yeah! J'imagine que ça va servir de ce qu'on appelle en anglais un frunk, donc un coffre avant, vu qu'il va y avoir beaucoup d'espace là. Le concept Wildcat présente aussi une calandre, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est, je vous dis pas rien, c'est un peu inutile dans le cas d'une voiture électrique, qui a pas besoin
c'est
de refroidir.
C'est un exercice de style, parce qu'on n'en a pas besoin. Là.
Ouais, fait qu'on va voir où Buick va s'en aller avec ça au fil des prochains mois, parce que 2024, pour une année modèle, ça s'en vient vite, c'est essentiellement l'année prochaine, donc on va voir ça rapidement. Évidemment, on connaît tous la technologie que GM utilise pour ces véhicules-là, elle est déjà existante, déjà commercialisée sous d'autres marques, fait qu'on va voir ça à suivre. Mais tu sais, vu le design du Wildcat, je me dis que c'est peut-être une niche pour Buick pour donner une espèce de marque de véhicule électrique au design rétro.
Puis on le sait là, l'électrique est la panacée en Chine en ce moment. Ben puis voilà. Parenthèse historique, tu sais pourquoi Buick est populaire en Chine?
Ça, qu'on en a déjà parlé. Effectivement, c'est une belle histoire.
Je reprends, c'est Chiang Kai-shek, la femme de Chiang Kai-shek, qui est un dirigeant chinois. Mm-hmm. Les États-Unis avaient donné, et là, citez-moi pas sa date, mais je pense que c'est 1947, avait donné un Buick à la femme de l'empereur, en tout cas appelé-le Chiang Kai-shek, était le dirigeant chinois de l'époque.
Ouais.
Et tous les Chinois savent c'est quoi une Buick depuis ce jour-là. Alors c'est pour ça que ça marche si bien en Chine, Buick. C'est très difficile dans des pays où la culture est totalement étrangère d'implanter un produit qui n'est pas du pays.
C'est vrai.
Et de ce côté-là, on a réussi avec Buick. C'est pour ça que le nom aujourd'hui est encore là et encore populaire auprès des Chinois.
C'est ce qui a sauvé la marque quand on a mis la hache dans Pontiac, je crois. Tu sais, on en parlait un petit peu à l'époque où ils se vendaient même pas l'équivalent de deux véhicules par année de marque Buick en Amérique du Nord, par concessionnaire.
Ah oui. Alors, on l'a conservé pour ça. Autre nouvelle de ton côté?
Écoute, une nouvelle qui m'a valu un courriel des gens d'Hydro-Québec, là, parce que le prix des recharges des autos électriques est aussi en hausse comme l'essence, n'est-ce pas? Le prix de l'essence, on l'a vu, ça monte vite. Le prix de la recharge, quand un propriétaire d'une voiture électrique se branche à une borne d'un réseau public, est aussi à la hausse depuis le début de l'année. On a parlé déjà de ce qui se passe du côté de Tesla avec la vue à la hausse là, des prix de quand on se branche sur le superchargeur de la marque. Et là, c'est le circuit électrique, le réseau de bornes là, qui appartient donc à Hydro-Québec et qu'on trouve assez facilement partout dans la province, qui vient de revoir sa structure de prix pour permettre aux propriétaires des bornes qui composent le réseau de hausser le montant payé pour chaque heure d'utilisation et pour chaque utilisation tout court. C'est une hausse qui, sur papier, semble assez salée. Là. Le prix d'une recharge pourrait atteindre 3 $ jusqu'à un maximum de 10 $ par charge, alors qu'elle était auparavant d'un dollar de l'heure pour un maximum de 2,5 $. Donc, on multiplie par 3 ou par 4. C'est pas des gros montants, on s'entend, donc c'est pas nécessairement une grosse affaire. Ce qu'on m'a dit chez Hydro-Québec, parce que j'ai parlé de ça sur le web, sur un site web plus tôt cette semaine, c'est que y a seulement 3% des bornes de niveau 2 qui sont affectées par ce changement de tarification-là, qui ont vu leur prix augmenter, parce que ça donne un peu plus de souplesse aux gens qui...
Okay.
Mais c'est aussi... Pour certains, tu sais, des commerçants qui ont une borne sur leur stationnement, c'est un outil de marketing en disant, bon, ben, venez vous brancher et venez donc acheter des choses chez moi.
Ben oui.
Donc, ils n'ont pas intérêt à monter le prix, mais ça laisse une certaine souplesse de ce côté-là, probablement pour l'avenir. Ça va être à suivre. Mais si ça affecte, si ça vous affecte, si vous avez dans votre quartier ou dans votre région une borne et vous voyez le prix augmenter, c'est sûr que c'est un peu fâchant parce que c'est une tendance. Il n'y a pas juste le circuit électrique.
Alors, Tesla a fait la même chose, exactement.
Les grands réseaux, là, Electrify Canada, ChargePoint. Ouais, exactement. C'est certainement des choses qu'ils considèrent aussi. Puis c'est un petit peu embêtant parce que quand on parlait, et on va en reparler avec Daniel Breton tantôt, mais la stratégie du gouvernement de vouloir électrifier le parc automobile, ça coûte cher, les autos électriques. Donc, les gens, ils calculent puis ils veulent amortir en disant, j'irai pas à la pompe, donc je sauve des sous. Mais si ça coûte plus cher à charger, ça étire cette période d'amortissement.
On est loin de là pour le moment.
C'est pas, c'est comme dire, prenez l'autobus, mais on va quand même augmenter le prix du billet. C'est pas nécessairement la meilleure façon de créer un incitatif. Je veux juste dire ça. Mais c'est bref. C'est comme le prix de l'essence, c'est comme tout le reste dans la vie depuis 6 mois.
Ça ouvre la porte à des augmentations, puis il faut pas se surprendre, tout augmente en ce moment-là. Nouvelle assez intéressante du côté de Ford, c'est sorti cette semaine aussi. Il y avait une conférence où le PDG de Ford, Jim Farley, était invité. Lui a dit, en fait, c'est la conférence annuelle de Bernstein qui est assez courue dans le milieu des affaires. Et le PDG de Ford a dit qu'il voulait vendre des véhicules en ligne et à prix fixe. On parle de Ford, là.
Ça, c'est un petit tremblement de terre dans le monde automobile.
C'est un assez sérieux tremblement de terre. Oui. Tu sais que Lucid ou Tesla ou, bon, des compagnies qui n'ont pas l'ampleur de Ford, mais là, tu as un des grands constructeurs de la planète qui dit, non, moi, là, on va livrer des autos chez vous. Mm-hmm. Vous allez commander en ligne. Le prix va être fixe. On va garder des concessions, mais pour le service, pour l'après-vente, pour s'assurer que tout va bien. Et quand c'est le PDG qui le dit, tu dis, bon, faut prendre la chose au sérieux.
Ben, j'ajouterais à ça, tu sais, il y a quelques semaines, quelques mois, ils annonçaient une séparation de Ford. Ouais. Le groupe électrique va s'appeler Ford Blue. Et ce groupe-là n'aura pas l'obligation de respecter les ententes avec les concessionnaires.
Exact. Mais là, il veut passer ça à tout le monde. Là. On n'est plus juste dans l'électrique, on est pour tout le monde. D'ailleurs, le PDG, Jim Farley, a fait l'éloge de Tesla et des constructeurs chinois pour leur approche des ventes.
Oups.
Alors là, on dit, OK, on sait exactement où il veut aller. Bon, évidemment, garder de moins de voitures sur les lots des concessionnaires pourrait permettre à Ford d'économiser une somme considérable. On s'entend.
Ben oui.
Le constructeur automobile estime que son modèle de distribution coûte environ 2 000 $ de plus par véhicule. Donc, eux autres estiment qu'il y a 2 000 $ par véhicule, que c'est pour le garder, pour l'inventaire. Puis l'autre affaire qu'il a dit, qui, moi, m'a un petit peu frippé, c'est que faire de la publicité, ça sert à quoi, au juste? OK. Alors, lui a dit que, attendez-vous pas, dans un avenir approché, de voir des publicités au Super Bowl, puis de dépenser des montagnes d'argent pour des nouveaux modèles.
Ah, mon Dieu. OK, mais
il veut faire connaître comment? Par son site web ou...
Ben, s'il fait comme Tesla, il va falloir qu'il tweet à fond la caisse.
Il pourrait acheter... Moi, j'ai presque envoyé un petit courriel en disant, ben, achète Twitter. Il y en a qui ont voulu faire ça. C'est peut-être une bonne idée. Fait que, non, lui dit, le modèle est en ce moment détraqué. Ford dépense 600 à 700 $ sur chaque véhicule pour la promotion. Ça, c'est en plus du 2 000 je te parlais tantôt. Puis là, lui, il dit non, on veut remédier à ça. L'entreprise devait s'attacher à offrir une bonne expérience aux clients, les aidant lors des mises à jour de logiciels, en offrant des services d'esthétique gratuits, en proposant d'autres services. Mais on veut pas avoir le modèle d'affaires qu'on a en ce moment. Alors, c'est une grosse nouvelle, c'est des gros changements, et j'ai bien hâte de voir comment ça va être accueilli, tout ça, parce que c'est pas une affaire nécessairement évidente. En tout cas, moi,
Ben, c'est sûr que ça va changer, parce que le modèle Tesla fait bien des envieux, il n'y a pas de doute.
Ouais.
Il va y avoir de la résistance. On en parle ici à chaque fois avec la corporation des concessionnaires. Ils veulent pas changer. Donc,
non, ils veulent pas changer. Ça, c'est un sujet qu'on devrait remettre à l'horaire. Ah, puis autre nouvelle cette semaine qui est intéressante, qui ne touche pas encore le Canada, mais GM a réduit les prix des Chevrolet Bolt jusqu'à 6 300 $ aux États-Unis.
Oui.
Alors, écoutez, ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que les véhicules électriques sont trop chers. Là, on a diminué les prix. Bon, je vous le donne en dollars US, là, mais je vais essayer de vous faire de traduire avec le taux de change pour voir où ça nous amène. Mais on dit que pour la Bolt EV, la version 1LT, là, la version à peu près de base, commence à 26 595 $ américains. Avec le taux de change, là, ça serait à peu près autour de 33 000 $ ici. Là,
elle commence à 38 000 au Canada.
Exact, elle commence à 38, on parlerait de 33. On dit que c'est une baisse de 18% par rapport au prix qui était à 32 495 $ aux États-Unis. La 2LT, qui est le modèle plus équipé, elle va être à 29 975 $ américains. Ça, c'est 16% de moins. Donc, j'espère que c'est... Bon, évidemment... GM a des choses à se faire pardonner.
Ben, c'est ce que j'allais dire.
On a changé.
Ben,
c'est ça. On a changé 140 000 batteries. La présentation de la nouvelle génération est un pétard mouillé parce que le rappel est arrivé à peu près au moment où on lançait le véhicule. Fait que là, j'ai l'impression que GM veut se rattraper un peu. Et comment on se rattrape? On met de l'argent dans les poches des consommateurs. Ça, c'est toujours la façon la plus facile, la plus efficace et la plus rapide.
C'est pas une mauvaise stratégie, parce que la Bolt, c'est une des plus abordables sa formule.
À partir de là, si on le vend, mettons, à peu près 33 000, ajoute le 12 000 de rabais en bout de piste, là, t'es rendu dans 20-quelques 000.
C'est comme absurde de pas l'acheter.
Ben là, il n'y a plus de raison. Là. T'es pas plus cher. Là, c'est vrai que t'es pas plus cher que le véhicule à essence équivalent. Donc, ça devient fort intéressant. On va suivre ça pour vous, évidemment, parce que cette nouvelle-là n'a pas été confirmée pour le Canada.
Ouais.
On a fait des téléphones et on s'est... pas fait répondre, finalement.
Ah, voilà. On travaille là-dessus, comme on dit.
On travaille là-dessus. Ouais. On va mettre un homme là-dessus, comme disait Jean-Luc Mongrain à l'époque. Alors, nous, on va aller à une première pause et on va revenir avec notre invité de la semaine, Daniel Breton.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marcellet reçoit l'animatrice et conférencière Josie Boudreau.
On avance. C'est que, comme j'ai dit, je regarde jamais en arrière. On avance avec ça.
Comment ça va pour vrai? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, notre premier invité, ben vous le connaissez, c'est un habitué de l'émission. Il est président de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Salut, Daniel.
Bonjour, messieurs.
Alors, Daniel, c'est rare que tu es heureux suite à l'annonce d'un règlement gouvernemental, mais je pense que ce qu'on a annoncé hier va te faire sourire, en tout le moins, au moins un petit peu. J'explique rapidement. Évidemment, dans l'objectif d'atteindre la nouvelle cible de 1,6 million de véhicules électriques qu'on vise en 2030, le gouvernement du Québec propose un rehaussement des cibles de vente de véhicules électriques pour les années 2025 à 2029. Ça, c'est notre prémisse. À partir de là, Daniel, parle-nous un peu de ce qu'on a annoncé du côté du gouvernement du Québec hier.
En fait, ce que le gouvernement a annoncé hier, c'est qu'il arrivait avec un nouveau projet de règlement avec des cibles plus contraignantes et plus tôt. C'est-à-dire que, et là, il faut bien comprendre que ça n'a pas été encore adopté. Mm-hmm. C'est un projet de règlement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une consultation qui va commencer la semaine prochaine, qui va durer, je pense, un mois et demi. Évidemment, les constructeurs automobiles, certains d'entre eux sont certainement pas très contents, d'autres vont être plus contents. Fait que l'idée, c'est de dire qu'on passe à partir de 2025, une voiture électrique pouvait avoir jusqu'à 4 crédits. Là, on diminue ça à 1 crédit. L'idée là-dedans pour le gouvernement, c'est de dire ben ça va être beaucoup plus facile d'identifier 1 crédit, une voiture, donc on va avoir une meilleure idée de l'augmentation du nombre de ventes de voitures. Donc, 1 crédit pour une voiture 100% électrique et 1 demi-crédit pour une voiture hybride rechargeable.
OK, mais. Non. OK.
Il y a un gros mais, oui.
Il y a un mais, exact.
Ouais, c'est-à-dire que, initialement, le gouvernement avait dit, pour avoir 1 demi-crédit avec un véhicule hybride rechargeable, il faut que le véhicule hybride rechargeable ait une autonomie de 80 km ou plus. Les constructeurs automobiles, moi, je me rappelle parce que j'étais là lors des consultations, ils ont dit, ben, il n'y en a pas de voitures hybrides rechargeables qui ont 80 km d'autonomie au plus présentement. Ce à quoi, moi, j'ai répondu, ben, il y en a déjà eu.
Ben
donc,
oui.
Ça veut dire que vous êtes certainement capable d'en faire à partir de 2025.
Ben oui, la Volt, la Clarity.
La Volt, exactement.
Exactement. Oui, voilà. Oui.
Donc, le gouvernement a annoncé une mesure transitoire pour les années 25, 26, 27. Pour avoir une autonomie, pour avoir 1 demi-crédit pour une voiture hybride rechargeable qui va avoir une autonomie électrique entre 50 et 80 km. À partir de 2028, en bas de 80 km, t'as rien. T'as aucun crédit comme constructeur automobile.
Bon, puis Daniel, pour ceux. OK, oui, Daniel, oui. Juste je fais une parenthèse. Pour ceux qui comprennent pas la notion de crédit, là, explique-nous un peu c'est quoi la notion de crédit. Parce que là, ce qu'on avait avec 4 crédits pour un véhicule électrique, même les compagnies qui étaient pas très versées dans l'électrique rencontraient leur cible assez facilement. Puis là, on veut rendre ça plus difficile. Donc, forcer les constructeurs à produire plus de véhicules électriques. Là.
Ben, mais aussi, c'est que, comment dirais-je? Les constructeurs, par exemple, comme Mazda ou Honda, qui vendaient peu ou pas du tout de véhicules électriques dans la première période de conformité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des crédits des constructeurs qui en avaient vendu plus que leur plafond. Par exemple, GM ou Tesla.
Ouais, Tesla est le plus bel exemple parce qu'ils ont juste ça d'électrique.
Fait que donc, le gouvernement du Québec a collecté 0 $ là, dans la première période de conformité. C'est-à-dire que c'est des échanges entre constructeurs qui ont fait en sorte que tout le monde a été capable d'atteindre leurs objectifs, soit en vendant ces véhicules électriques, soit en achetant des crédits. Et moi, je me rappelle, j'avais fait un calcul que, mettons, en 2019, pour qu'un constructeur atteigne son objectif de crédit en les achetant, ça faisait en sorte que si tu comment dirais-je, si tu prenais tout l'argent que tu avais payé pour acheter des crédits et que tu répartissais sur les ventes de véhicules à essence, ça faisait en sorte d'augmenter d'à peu près 70 $ le prix de véhicules à essence moyen.
OK. Que, et
c'était pas une grosse affaire.
Puis c'était pas une grosse affaire. Puis ça, c'était avec un crédit à 5 000, mais c'est...
Ah, c'est ça. OK. Mm-hmm. Donc, le crédit, un crédit, ça se vend 5 000 $.
Donc, ben, ça se vend 5 000 $ maintenant.
Ouais.
Comme on vient de diminuer de 4 crédits à un crédit va valoir 20 000 $.
Ah, ben oui, là, il y a une différence. Puis,
là, il y a une différence.
Une compagnie comme Mazda pouvait acheter combien de crédits? As-tu déjà eu des chiffres de ça?
Oui, en fait, j'ai pas les chiffres par cœur, mais dans le rapport de conformité du gouvernement du Québec qui a été publié l'année passée, on avait tous les chiffres d'achat de crédit, mais on n'avait pas le montant d'achat de crédit.
Ah,
c'est-à-dire que
okay.
Ce que j'ai su par la porte d'en arrière, c'est que les crédits étaient échangés pour moins cher que le montant 5 000 $ du gouvernement du Québec.
OK, OK. Fait il y avait des espèces d'ententes à l'amiable, là.
Des ententes à l'amiable, exactement.
Okay.
Donc, ça, c'est une des choses qui est annoncée. Donc, pour les véhicules hybrides rechargeables, évidemment, un véhicule 100% électrique, est-ce que tout véhicule 100% électrique va être admissible au plein crédit? Parce qu'en Californie, eux autres, il faut que le véhicule électrique ait au moins, si je ne m'abuse, 250 km d'autonomie.
Ah oui, donc, fait que là, tu vas ajouter des normes aux véhicules électriques. Donc, ouais. Tu pourras enlever, mettons, un demi-crédit si tu n'as pas au moins 250 km d'autonomie.
Dans la proposition, ils disent jusqu'à un crédit ou jusqu'à un demi-crédit.
Okay.
Ils doivent
se laisser
une marge, j'imagine.
En fait, c'est marqué un système où un véhicule électrique obtient systématiquement un crédit.
Ah bon?
Fait que là, tout ça va faire partie des discussions et des négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines entre les constructeurs et le gouvernement et des gens comme nous. Pour pas qu'on se retrouve avec un véhicule qui a peu ou presque pas d'autonomie 100% électrique, mais qui soit capable d'obtenir un plein crédit. Ensuite de ça, il va y avoir une diminution progressive de l'utilisation des crédits pour les véhicules d'occasion. C'est-à-dire que ça va être à 0% en 2035. Autrement dit, les véhicules d'occasion électriques avaient une certaine valeur pour les constructeurs, mais là, le gouvernement veut dire, ben, rendu en 2035, les véhicules d'occasion ne valent plus rien au niveau des crédits.
OK. Et est-ce qu'il y a eu allusion à une diminution progressive des subventions aux véhicules? Parce que quand Jean Charest...
Ça n'a rien à voir.
Non, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est une politique. Tu sais, un moment donné, on veut peut-être enlever un certain montant ou on fera une parenthèse tantôt, mais c'est des questions qui reviennent souvent, ça.
Oui, ben en fait, la réponse, c'est que c'est certain que ça va diminuer progressivement. Moi, je m'attends à ce que, tu sais, ça diminue. Là, voyez-vous, ça a diminué de 1 000 cette année.
Ouais.
Je
ne
serais pas étonné que ça diminue progressivement de 1 000 par année d'ici 2027, 28, 29, quelque chose comme ça.
OK. Mm-hmm.
Parce qu'on s'attend à ce que progressivement les véhicules deviennent de plus en plus compétitifs, surtout avec le 2 $ le litre. Donc, c'est certain qu'ils sont compétitifs présentement.
Oui, ça, c'est clair.
Et, et puis, pour bien comprendre qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation directe entre le montant du rabais pour les ventes de véhicules électriques, présentement, au premier trimestre de 2022, en Colombie-Britannique, il s'est vendu 17 % de véhicules électriques et leur rabais de 3 000 $.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas une équation nécessairement directe. Et quand j'entendais certains interlocuteurs dire on a baissé le montant de rabais de 1 000 $, on est passé de 8 000 à 5 000, les gens ne voudront plus acheter de voiture électrique. C'est complètement faux, là, vous dire. Le prix de l'essence ayant tellement augmenté, la demande monte considérablement,
en fait,
même si les gens ont moins de dollars de moins de rabais, parce qu'ils savent compter quand même.
Ils savent compter. Le seul problème, c'est qu'on peut pas en acheter ou presque en ce moment. Là. Il y a tellement pas de véhicules électriques dans les cours. Là. C'est difficile.
Ça, c'est la question, en fait, à laquelle on s'en va avec cette proposition-là du gouvernement.
Ouais.
Daniel, tu peux nous dire peut-être un peu, le but, c'est vraiment de forcer les constructeurs à allouer plus de véhicules pour le marché québécois. Là.
Oui, sauf que ça, c'est pour 2025 à 2035. On est en 2022.
Ben oui.
Ouais.
Et l'objectif entre maintenant et 2024, dans le cadre de la norme zéro émission actuelle, l'objectif c'est d'atteindre 11,5, à peu près 11 à 12 % des ventes.
OK.
Mais on était à 13 % au premier trimestre. Donc ça veut dire que les constructeurs d'ici 2024 n'ont pas vraiment de pression pour vendre plus de véhicules électriques.
Donc on peut continuer avec la politique qu'on a en ce moment, puis ça ne changera rien.
Ben, c'est qu'ils ne seront pas pénalisés.
Non, c'est ça.
Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai beaucoup parlé du fait que dans ce qui avait été présenté il y a quelques mois que le gouvernement disait, ben, en fonction du projet de règlement actuel, celui qui a été présenté cet hiver, il n'y aura aucune pression sur les constructeurs avant 2029 pour en vendre plus. Mm-hmm. Là, on amène ça à 2026-27. Donc, c'est une amélioration. Mais de dire que d'ici 2-3 ans, on va se retrouver à avoir plein de voitures électriques dans les cours de concessionnaires à cause de ce nouveau projet de règlement-là. C'est pas le cas.
OK. Là, il y a, on dit du gouvernement qu'on vise un peu à un projet de règlement qui va ressembler à la Californie. En quoi est-ce que ça va ressembler à la Californie, puis en quoi est-ce que c'est différent?
Écoute, ce qui est proposé, il y a quelques différences par rapport à ce que la Californie propose, entre autres les exigences. Les exigences de kilométrage de véhicules hybrides rechargeables en Californie sont plus élevées que celles du Québec.
OK.
Donc, pour être capable d'avoir un demi-crédit, ben, il va falloir que tu aies plus d'autonomie électrique avec ton véhicule hybride rechargeable au Québec qu'en Californie. Ensuite de ça, écoute, il y a aussi le fait qu'on parle, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais envoyé un petit graphique qui parlait des exigences de crédit proposées par le Québec et la Californie. Ce qu'on voit dans le fond, c'est que ils veulent essayer de s'aligner sur la Californie, mais il y a quand même certaines nuances. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de discussions sur dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que à certains égards, le Québec est plus ambitieux que la Californie, à d'autres égards, il est moins ambitieux. Évidemment, nous, on cherche à faire en sorte que le Québec soit de plus en plus ambitieux, parce que là, on est en train de se faire larguer, on va se le dire, par la Colombie-Britannique, qui a vu ses ventes de véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques, là, ils nous dépassent complètement. Là, on est à 13%, les autres sont à 17%. Ouais. Et la pression ne cesse d'augmenter parce que l'objectif de la Colombie-Britannique, eux, c'est pas 65% de ventes de véhicules électriques en 2030, c'est 90%.
Ouais, puis 2030, là, ça s'en vient vite, là.
Ça s'en vient très vite.
Ouais, ouais.
Donc, mais honnêtement, faut être positif. Là. Je me sens positif, fait beau. mais c'est quand même des bonnes nouvelles de voir que le gouvernement du Québec reconnaît que son projet de règlement initial présenté il y a quelques mois était vraiment pas assez ambitieux. Ça va dans la bonne direction. Est-ce que ça pourrait aller plus vite? La réponse, c'est oui, parce que les gens se sentent piégés. On en a déjà parlé. C'est-à-dire que le prix de l'essence est extrêmement cher. Ils vont chez le concessionnaire, il n'y a pas de voiture électrique.
Ah, ben
le problème à court terme ne changera pas.
Non, en fait, c'est ça, là. C'est que si t'as pas commandé un véhicule électrique il y a un an et demi, puis que t'en prends un tout de suite, t'en as un dans 2 ans.
C'est quand même...
C'est à peu près ça, la réalité, là. Bon, il y a quelques petites exceptions. Tesla est encore capable de livrer en moins d'un an.
Je dirais qu'il y a Ford avec le Mustang Mach-E, puis il y a Polestar 2, puis c'est à peu près ça.
Ouais, c'est le reste là, c'est moi je me suis informé auprès de quelques constructeurs, puis la moyenne va de 20 à 27 28 mois là pour la plupart là. Donc faut compter 2 ans.
Quand on parle aux acheteurs, la plupart du monde au Québec disent mon prochain véhicule sera électrique. Ça veut dire, quand on pense que le cycle est d'à peu près 7 ans, là, en moyenne, là, est-ce qu'on peut imaginer que la plupart des gens auront accès à un véhicule électrique d'ici, disons, les 4 prochaines années, 4 à 5, 6 ans, Daniel?
Oui, je pense que oui. Mais cela dit, j'ai hâte de voir comment le projet de règlement, quel impact va avoir le projet de règlement sur la disponibilité de certains véhicules. Parce que, tu sais, hier, Alain, toi et moi, on s'en parlait. Si on prend Toyota, dont la plupart des véhicules branchables qu'ils vendent sont des Prius Prime.
Ils sont déjà fâchés par rapport à tout ça.
Prime ayant 40 km d'autonomie, ça veut dire qu'ils ont droit à 0 crédit pour les Prius Prime.
Exact.
Ouais.
Exact.
Le Prius Prime n'est pas nécessaire, n'est pas utile pour eux dans ce contexte-là.
C'est ça. Les RAV4 Prime, ben, on les a au compte-gouttes, on le sait. Puis les RAV4 Prime, à partir de 2028, ben, ils seront pas admissibles parce qu'ils sont en bas de 80 km d'autonomie. Fait que Toyota va soit devoir acheter les crédits ou se mettre à livrer des Toyota BZ4X, ce dont je doute fort.
Oui, ce dont je doute très fort, moi aussi.
Fait que pour des constructeurs comme GM, qui sont dans 100% électrique, comme Hyundai, Kia...
Eux, ça va, ils vont être capables de se conformer assez facilement. Mais tous ceux qui sont assis entre deux chaises...
Les Japonais en général,
Les Japonais vont arriver en retard.
Parce qu'ils sont encore assis entre deux chaises, là, ils ont un pied dans l'essence, puis un pied dans l'électrique, puis ils savent pas toujours sur quel pied danser, là. Ça, c'est une façon de leur dire, branchez-vous,
Oh, oh. La gag. Ben, à moins qu'un équipementier arrive avec un kit hybride branchable à 90 km, par exemple.
Ou on améliore les hybrides branchables. Voilà, ça, c'est l'autre solution. Sortez, tu sais, la technologie est là. Puis, tu sais, Daniel, tu nous l'as déjà dit, là, la densité des piles a triplé depuis 10 ans. Bon, ben avec le même espace de piles, t'es capable de sortir des hybrides branchables de 100 km sans trop travailler fort, là.
Ben écoute, c'est ça, Benoît, moi, qui me fait... J'en reviens pas de voir qu'en 10 ans, l'autonomie des voitures 100% électriques, l'autonomie moyenne a augmenté de x4. Mm-hmm. Les hybrides rechargeables n'ont pas bougé, là, ça a stagné depuis 10 ans.
Non, on est encore à 30-quelques kilomètres, 30 puis 40 pour la grande majorité.
Tout le monde a adopté à peu près la même configuration hybride aussi. On a tous imité ce que tout le monde fait.
On a respecté le minimum de la réglementation, puis on n'a jamais cherché à aller plus loin.
Des véhicules de conformité.
Ben voilà, oui, absolument. Ben, un grand merci, Daniel. Ça nous a beaucoup éclairé. Puis quand on a d'autres nouvelles de ce genre-là, ben t'es notre homme.
Merci. Bonne journée, messieurs.
Salut. Alors là, c'était Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada, qui nous a éclairci un peu là-dessus. Là, on va voir où ça va aller, parce que là, c'est encore un projet. Mais je pense que ça devrait passer, parce que la demande, l'intérêt et tout va dans ce sens-là.
Ça peut créer le contexte pour des voitures électriques de 25 000 $.
Ben, on verra bien.
À 200 km d'autonomie.
On verra bien. Alors, nous, on va aller à la pause et après, on revient avec nos essais routiers.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marcellet reçoit l'animatrice et conférencière Josée Boudreau.
On avance. C'est que, comme j'ai dit, je regarde jamais en arrière. On avance avec ça.
Comment ça va pour vrai? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors avant de passer à nos essais routiers, évidemment... Comment nous écouter? Parce qu'on peut, comme ça, chaque semaine, d'abord, ceux qui sont abonnés, bravo, continuez de le faire. Apple, Spotify, Google, Cogeco, C23, donc les...
Pocket Cast.
Vous allez sur le site aussi, si vous voulez le trouver, c'est Cogeco ou une des stations Cogeco. Et dans la section balado, vous avez « Ça tient la route
oui. »,
qui est en compagnie d'une tasse de tech.
Une excellente balado techno.
Une excellente balado techno.
Par moi-même. Je vais t'inviter un jour, Benoît, il faudrait faire de quoi? Il faudrait faire une promotion croisée.
Vous pouvez aller aussi sur annuelauto.ca, le site de l'annuel de l'automobile. D'ailleurs, on est en pleine préparation de notre annuel 2023 et on fait une mise à jour comme ça chaque semaine des balados. Donc, facile à trouver, facile à écouter. Comme on dit souvent, abonnez-vous, c'est la façon la plus simple. Toi, t'es dans un modèle électrique, j'ose pas appeler ça de base.
Non, c'est
Polestar,
ça,
Polestar, c'est quand même
de
du
milieu,
luxe. Comparé à moi, t'es dans une trottinette. Mais je vais commencer avec le tien, mon Alain. Parle-moi de la Polestar d'entrée de gamme, puis je te parlerai de mon
électrique,
carrosse après.
Au moins. Ouais. Ben, écoute, c'est une Polestar, c'est une marque SME, n'est-ce pas, du groupe Volvo. Donc, c'est une voiture Volvo-esque, disons-le comme ça. Il y a eu la Polestar 2 en marché depuis un petit bout de temps déjà. Et là, les gens qui dirigent la marque se sont aperçus peut-être un peu tard qu'un prix de détail qui commençait au-dessus de 55 000 $ lui couperait une énorme part des acheteurs de véhicules électriques au Canada, étant donné, évidemment,
ben oui,
l'aide gouvernementale,
ben oui.
Exactement, qui, jusqu'à tout récemment, forçait, parce que ça a été un petit peu revu, là, mais forçait les conducteurs à offrir un, les constructeurs, pardon, à offrir un modèle de base vendu sous les 45 000 ou à peu près. Là, on a revu un peu ce montant à la hausse, donc il y a un petit peu plus de marge. Et le résultat pour Polestar, c'est qu'on a ajouté un modèle à un seul moteur plutôt que les deux, qui était jusqu'ici la seule option, et on a réduit le prix de vente de 7 000 Alors là, on a une Polestar 2 à 48 400 et elle développe avec ce seul moteur 231 chevaux et elle atteint un couple de 243 livres-pieds. Donc, c'est une version réduite.
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est son autonomie.
Ben voilà, je vais compléter ma fiche technique parce que
d'accord.
Sinon, je vais tout mêler.
Mais excuse-moi.
Non, c'est correct.
J'ai mêlé le monsieur un petit peu.
C'est une journée comme ça. Le moteur en question, donc, anime les roues à l'avant parce que au début, quand on en parlait, c'était pas clair, mais là, c'est vraiment une traction. Et comme il est moins exigeant, justement, côté consommation, il prolonge l'autonomie de la berline à environ 410 km par charge. La vitesse maximale est plafonnée à 160 km/h. Le 410, c'est moi qui l'ai obtenu sur le site de Polestar, je vais pas faire de lapsus. On parle de 430 quelque chose kilomètres.
Okay.
Mais 410, moi je peux vous le dire pour l'avoir fait, c'est 410. À titre comparatif, et ça c'est un peu amusant, il existe une Polestar 2 à deux moteurs et à quatre roues motrices vendue à partir de 51 900 $ et qui a droit à une puissance de 300 kW, ce qui signifie en fait 476 chevaux. qui est vraiment une brute. Son autonomie par charge est d'environ 20 km moins longue. Fait que c'est pas une grosse affaire.
Non.
Le fait est, par contre, que la Polestar à un seul moteur risque de parcourir une distance réelle, entre guillemets, pas mal plus près de ce qui est estimé dans le tableau de bord, étant donné qu'elle exige moins de puissance des batteries quand on écrase l'accélérateur.
C'est clair.
C'est un petit peu ça, un peu là-dessus qu'on joue. Ce qui fait que les 410 km que vous obtenez quand la pile est pleine sont assez fidèles à la réalité, même si vous empruntez plus souvent qu'autrement l'autoroute, qui est un détail quand même assez important dans le cas des voitures électriques. Parce que les vitesses élevées, on le sait, là, ça a tendance à... Ça demande plus d'énergie pour garder la vitesse de croisière, surtout sur l'autoroute. Bref, il y a des véhicules aussi électriques qui, on voit l'autonomie réduire à vue d'œil quand on fait de l'autoroute. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas mal fidèle à ce qui est écrit dans le tableau de bord. Évidemment, en échange, on hérite d'une voiture moins puissante, mais qui n'est pas paresseuse pour autant. L'accélération immédiate est immédiate, même si elle n'est pas écrasante, disons-le. Est-ce qu'on perd avantageusement quand même à n'importe quelle voiture de 50 000 qui ne serait pas électrique? Surtout sur l'autoroute, parce que les reprises sont vraiment excellentes. Il n'y a pas de problème. On veut changer de voie, on veut dépasser une voiture. Pouf, ça se fait en quelques secondes à peine. Côté conduite, on peut paramétrer le véhicule pour offrir une résistance quand on lâche l'accélérateur qui agit comme une espèce de compression moteur pour ralentir le véhicule sans avoir à freiner. Le fameux one pedal, comme on dit.
La conduite à une pédale.
Il faudrait trouver un autre terme parce que c'est vraiment pas une belle expression. Cela dit, ce mode-là est optionnel. L'autre option, c'est qu'on peut activer ou pas un mode, en anglais on dit crawl, donc en français disons rampant, là, qui fait doucement avancer la voiture quand on relâche le frein. C'est l'équivalent de la force de moteur à essence au ralenti quand on freine pas. C'est l'idle. Il n'y a pas de terme officiel pour ça. Mais c'est
Le ralenti.
Exactement. Polestar n'offre pas de réglage dynamique plus sophistiqué là, comme le font certains autres fabricants parce que justement, on dit, garde, c'est une voiture qui a cette personnalité-là et c'est ça sa personnalité. Personnellement, je préfère ça comme ça. Là, on sait à quoi s'attendre. On n'a pas sélectionné un autre, tu sais, des 3, 4, 5, 6 modes qu'on voit sur certains véhicules.
Honnêtement, Alain, je trouve ça intéressant qu'on amène des versions abordables. Je te posais la question de l'autonomie tantôt. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, là, c'est ça qu'on recherche d'abord et avant tout.
Exactement.
On veut pas nécessairement tout le luxe et tout le fla-fla qui va avec ça, puis payer 10, 12 000 de plus parce que tu as de l'équipement que tu veux pas vraiment.
Mm-hmm.
Les gens, ce qu'ils veulent, c'est dire... C'est quoi l'autonomie? Puis je me rends
c'est
où?
C'est la première question, exactement.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on offre un modèle qui est plus abordable, mais qui offre pas moins d'autonomie.
Exactement.
Donc, ça, moi, je pense, de ce côté-là, c'est un gain. Là.
Absolument. Puis, c'est vrai, je parlais avec un expert des HEC de la Formule 1, parce que ça s'en vient à Montréal dans pas longtemps. Là.
La semaine prochaine.
La fin de semaine prochaine. Et, tu sais, on parlait de, par exemple, le groupe Volkswagen veut aller en F1 parce qu'ils veulent cette image de performance. Oui. Ils sont en train de s'électrifier à 100%. Il y a certains constructeurs qui pensent qu'il faut absolument projeter cette image de puissance et de performance tout en allant électrique parce qu'ils pensent que l'électrique, c'est pas le fun à conduire. Mais à la fin de la journée, ce que les gens recherchent, surtout pour une première voiture électrique, c'est l'expérience globale. Et je pense qu'à ce jeu-là, la Polestar 2 est vraiment très positive.
Il faut pas penser que tout le monde recherche une expérience au volant. Là.
Ben,
Toutes les Toyota Corolla qu'on a vendues sur la planète, personne qui recherchait une expérience de conduite là-dedans.
C'est
là,
éloquent c'est comme message, effectivement. Et dans le cas de la Polestar 2, ben, c'est une des berlines intermédiaires qui, à part la Tesla 3, tout comme la Tesla 3, je devrais dire, figurerait sur ma liste si j'étais en mode magasinage.
Très confortable. Moi, je l'ai essayé cet hiver.
Mm-hmm.
Et j'ajouterais même que le profil aérodynamique aide au niveau de l'autonomie parce que moi, j'ai essayé une Volvo XC40 Recharge qui est en fait exactement les mêmes batteries. Mm-hmm. C'est pile poil la même affaire. Mais j'ai moins d'autonomie que le Volvo parce que ça a le profil d'un frigidaire.
C'est un gros bloc.
C'est un gros bloc alors que le Polestar est beaucoup plus profilé. Mm-hmm. Et ça a donné des résultats intéressants.
Il y a une chose qui fait sourire à bord de la Polestar 2. Il n'y a pas de bouton d'allumage du véhicule. Hein? ça désoriente la première fois. On s'assoit dans le siège du conducteur avec la clé dans sa poche et le véhicule est
sur le
prêt.
Siège. Quand on met les fesses sur le siège, tout allume.
Et là, quand on sort de l'habitacle, tout s'éteint, incluant la musique. Ce qui est un peu déconcertant au début, mais c'est fiable. Il faut s'y fier. C'est comme ça. Je vais dire un autre truc rapidement. À bord, il y a l'interface Android Auto dans la console centrale, l'espèce de grand écran très, très vertical, qui est fourni directement par Google et qui est connecté. Donc, ça comprend les applications natives sans avoir à jumeler un téléphone comme Google Maps. Il y a Spotify pour la musique. Il y a quelques autres applications. C'est bien. C'est le fun. Il y a la commande vocale de l'assistant Google qui est très bonne à nous comprendre. Cela dit, il n'y a pas une panoplie d'applications disponibles, donc ça reste un peu limité, mais c'est un bon premier pas.
D'intégration là, verticale, c'est-à-dire comme si on se branchait à l'ordinateur. Là.
C'est tu sais parce que souvent ces voitures-là, tu l'as dit tantôt, c'est comme des vitrines technologiques superflues. Là, on a gardé ça simple, mais on est quand même allé chercher quelque chose d'assez intéressant point de vue interface informatique, disons. moi, ce que je comprends de cette voiture-là, c'est que c'est une façon plus discrète qu'une Tesla de passer à l'électrique. Hein, on le sait, Tesla, c'est aussi tout un bagage quasiment culturel, là, tellement que c'est rendu une marque avec une identité forte. Et tout ça, pour moi, ça m'a grandement plu. Là, ça vaut vraiment la peine d'ajouter la Polestar 2 à votre liste de magasinage si vous cherchez une voiture électrique d'environ 50 000 $ parce
alors,
que ça en est une bonne.
Deux pouces en l'air pour aller.
Oui, monsieur.
Bon, parfait. Écoute, moi, je suis allé à l'autre extrémité du spectre de l'électrique. Je suis en Audi e-tron GT RS, là, qui est la grosse affaire. En fait, c'est l'équivalent chez Audi de la Taycan chez Porsche. On est à peu près au même endroit. On a des moteurs. On a 590 chevaux électriques, 612 livres couple de pied. Puis il y a même un mode Overboost qui vous amène à 637 chevaux.
Livres pied de couple.
Livres pied de couple. Ouais. Et c'est toute une machine. Honnêtement, là,
ben, écoute, 500,
tout est dans le superlatif là-dedans. Ouf. Évidemment, c'est quatre roues motrices électriques, on se comprend bien. J'ai même aimé l'espèce, il y a un son de moteur qui est pas mauvais. Il y a des sons de moteur que je trouve un peu trop électroniques. Puis tu dis,
Gens chez Audi, des acousticiens qui sont engagés exprès pour reproduire le son d'un moteur.
Je me rappelle, on avait eu, avant que ce modèle-là sorte, au tout début de la pandémie, on avait eu un Teams spécifiquement sur la façon dont on travaillait le son pour cette future voiture-là. Et là, à cette heure que je suis dedans, tu coupes le son, tu coupes la radio, j'aimerais ça l'entendre avec rien, mais c'est vraiment, là, c'est presque à s'y tromper. Bon, vous dire que c'est méchant en tabarnouche, là. En mode overboost, là, 2,5 secondes pour un 0-100, là. C'est ton cerveau se déplace latéralement dans ta tête pendant que t'avances. C'est incroyable. Bon, il y a différents modes de conduite. Évidemment, on annonce 373 km d'autonomie. J'étais à 367, là, j'ai pas fini.
Okay.
Mais jusqu'à maintenant, je suis assez pile-poil dessus. Mais là, évidemment, il y a un mode dynamique, efficacité ou efficiency, confort individuel. Le plus efficace, c'est efficiency. Ça, c'est l'espèce de mode éco, où là, tu vois le 373 apparaître. Ça, c'est là que tu pars à fond.
Ton maximum de
en mode dynamique, t'es à 340 en partant. Fait que dis-toi que t'en perds un peu, parce que bon, évidemment, c'est beaucoup plus prompt. Mm-hmm. L'auto est plus nerveuse. Puis pour une affaire qui dépasse largement les 2 tonnes, c'est impressionnant à quel point c'est facile à conduire. Je suis à du 25-26 kilowatts là, à peu près de consommation, qui est pas si pire. C'est très profilé.
C'est au-dessus de la moyenne, mais effectivement,
c'est tout à fait bon, vraiment. Considérant la grosseur de l'affaire.
Mm-hmm.
Là, évidemment, on peut prendre des charges très élevées. On peut charger sur du 400. Là, j'ai lu et je ne l'ai pas testé. Je vais le faire probablement avant de le remettre quelque part cette semaine. Mais on dit qu'on peut mettre 80% de charge en 22 minutes et demie. Sur un 350, là, on s'entend.
On peut emprunter les bornes de Porsche pour la Taycan, là, les super bornes.
Oui,
disons,
ça marche parce que je l'ai essayé.
Ah voilà, c'est ça.
J'y suis allé et ça fonctionne, c'est exactement pareil parce que j'avais rendez-vous avec Porsche cette semaine pour un sujet qui s'en vient dont je dois taire l'existence.
Oups.
Mais il y avait, puis j'ai dit quinquin, là l'occasion, branchez ça là-dessus puis ça fonctionne super. Alors ça va bien. Tenue de route, évidemment. C'est une grand tourisme. Là. C'est les gens qui connaissent les grands touristes, il y a une suspension pneumatique à 3 chambres. C'est des amortisseurs adaptatifs. On a l'impression, là, selon la fonction ou selon le mode de conduite, qu'on passe d'un nuage à une piste de course. Là, j'en mets un peu pour l'imagination. Mais c'est un mode extrêmement agréable, peu importe ce que vous allez faire. Et on a 50-50 répartition de poids avant-arrière. Donc, c'est extrêmement équilibré comme véhicule. On a des roues arrière qui tournent à 2,8 degrés pour faciliter dans les courbes, la prise de courbe. Donc, on a gardé les caractéristiques des voitures sport. Là, évidemment, je vous épargne tous les détails à l'intérieur. C'est une Audi, là. C'est une panoplie technologique.
Donc, les ingénieurs allemands comprennent que l'électrique peut être le fun aussi.
Ben, on a amené tout ce qu'on connaît d'intéressant dans la conduite, puis on l'a mis dans l'électrique.
Voilà.
Je vous résume ça vite. Il y a un écran de 12,3 pouces configurable. C'est le fameux Virtual Cockpit qu'on retrouve aussi dans ce modèle-là. Apple CarPlay, Android Auto, Bang & Olufsen, donc système audio de haut calibre, évidemment à 194 000 $, on s'attend à rien de moins que vrai. Ça. Le coffre est pas énorme, c'est 405 litres, on peut baisser les sièges, mais le seuil est très bas. Fait que ceux qui ont beaucoup de choses à transporter, là, il n'y a pas un énorme coffre, c'est peut-être ma seule critique. Il n'y a pas de conduite à une pédale non plus. Moi, ça me plaît, parce que ça me donne l'impression de conduire une voiture normale. Mm-hmm. Alors ça, j'ai beaucoup adoré. Moi aussi, 2 pouces en l'air si vous avez 200 000.
Ouais.
Merci Alain, bonne semaine. Bonjour. Merci à Claude Hébert et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.